enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Bonjour. Une des grandes vérités enseignées par la Bible, c'est que la repentance ouvre le chemin à la foi et développe la nature de notre foi. Aujourd'hui, c'est ce que je vous invite à découvrir dans cette deuxième partie de l'enseignement de la repentance à la foi, de la série « Poser les fondations ».
Maintenant, si nous considérons la fin du ministère de Jésus, son message n'a pas changé. Dans Luc 24, après sa résurrection, Jésus donna des instructions à ses disciples. En Luc, chapitre 24, versets 46 et 47, souvenez-vous que c'est après la résurrection, juste avant qu'il quitte ce monde. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Remarquez bien ce message. La repentance et la rémission ou le pardon des péchés, mais pas le pardon sans repentance. Et c'est le message qui sera donné en premier à Jérusalem, puis prêché à toutes les nations. Repentance, puis pardon en son nom. Puis, lorsque l'Église fut publiquement manifestée le jour de la Pentecôte, de la grande dispensation du Saint-Esprit, la multitude des Juifs s'assemble et veut savoir ce qui se passe, et Pierre se lève et prêche le célèbre message du deuxième chapitre des Actes. À la fin, ils sont convaincus et disent à Pierre, « Que ferons-nous ? » Ce fut la première fois que l'Église se vit demander par des pécheurs ce qu'ils devaient faire. Laissez-moi lire ce passage. D'Actes 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Et laissez-moi vous dire que si vous en arrivez au point où vous désirez sincèrement savoir ce que Dieu attend de vous, en étant prêt à le faire, Dieu ne vous laissera aucun doute au sujet de ce qu'il veut. Sa difficulté n'est pas de vous le dire, mais de vous amener à le comprendre et à le faire. Et dès que ces personnes, dans une réelle conviction de péché, demandent aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Pierre, en tant que porte-parole de Dieu et de l'Église, leur donne une réponse claire, précise et pratique. Pierre leur dit, « Repentez-vous. » Qu'est-ce qui vient en premier ? La repentance, voilà. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est une promesse en trois phases. Première phase, la repentance. Deuxième, être baptisé d'eau. Troisième, recevoir le Saint-Esprit. Je ne crois pas que le programme de Dieu ait changé. Je crois que c'est très exactement ce que Dieu veut que les pécheurs fassent de nos jours. Je crois que c'est le message que devrait prêcher l'Église aujourd'hui. Repentez-vous, soyez baptisés d'eau et recevez le don du Saint-Esprit. Mais partout où ce message est prêché, il se produit exactement ce qui arriva le jour de la Pentecôte. Les gens se repentent, ils sont baptisés et reçoivent le Saint-Esprit. Je l'ai vu se produire très souvent. Très souvent, les gens sortent du baptême d'eau et sont remplis du Saint-Esprit. Pourquoi devrions-nous affaiblir ce message ? Nous n'avons pas autorité pour le faire. La seule autorité que nous avons consiste à proclamer le message du Nouveau Testament. Repentez-vous, soyez baptisés d'eau, recevez le Saint-Esprit. Quand nous délivrons ce message, Dieu donne la réponse. Ce n'est pas Dieu qui a changé. Ce n'est pas le message qui a changé. Mais dans bien des cas, c'est l'Église qui a changé. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous choquer. Mais je ne trouve nulle part, dans le livre des Actes et les suivants, une seule personne qui ait proclamé le salut en Jésus sans avoir été baptisé d'eau. Essayez d'en trouver une. Parce que Jésus a dit, « Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. » Quel droit avons-nous de retirer les mots « et qui sera baptisé » ? Le salut, c'est croire et être baptisé, lorsque vous avez fait cela, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Voilà le message de l'Église. Il n'a pas changé du point de vue de Dieu. À présent, considérons le ministère de Paul, le grand apôtre des gentils. Nous le verrons à travers du livre des Actes. Pour commencer, Paul se trouve à Athènes. C'est une ville hautement intellectuelle et idolâtre. Il finit par leur prêcher son message. Je ne crois pas qu'il ait eu l'intention de le faire, mais il finit par le faire parce qu'il demandait à connaître ce en quoi il croyait, et il leur a dit. Il conclut son message en Actes, chapitre 17, versets 30 et suivants, et parlant de tout le temps où ils vivaient dans l'idolâtrie et l'ignorance de Dieu, il déclare, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » C'est tellement clair. Dieu commande à tous les hommes, en tout lieu, de se repentir. Nul endroit ou personne n'est excepté. C'est l'exigence de Dieu pour l'humanité. Il désire effacer le passé si nous nous repentons. Puis il dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il y a une telle négligence et un tel manque de rigueur dans le christianisme d'aujourd'hui, parce que nous ne réalisons pas le fait que Jésus est non seulement le Sauveur, mais qu'il est aussi le Juge. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Quelle est la mesure du jugement? C'est la justice. La manière dont nous avons vécu. Quelle sorte de gens nous avons été? Ce n'est pas une question de dénomination, de nationalité ou de statut social. Il n'y a qu'un critère dans le jugement. C'est la droiture. Dans la première épître de Jean, Jean dit que tout manque de droiture est un péché. C'est comme si vous vouliez savoir ce qu'est être de travers. Je ne suis pas un géomètre, mais je peux simplement vous montrer une ligne droite et vous dire que tout ce qui dévie de cette ligne est de travers. Cela peut dévier d'un degré ou de 90 degrés. Mais ce sera de travers. Et tout manque de droiture est un péché. Tout ce qui n'est pas droit est péché. Il n'y a pas de troisième catégorie. J'ai remarqué que chez beaucoup de croyants aujourd'hui, il existe une sorte de troisième catégorie. Disons que ce n'est pas très droit, mais ce n'est pas non plus un péché. Cette catégorie n'existe pas dans la pensée de Dieu. Tout ce qui n'est pas droit est péché. Et quand nous regardons dans Actes 20, la description que Paul donne de son ministère à Éphèse, où il obtint les plus grands résultats de tout son ministère. Il parle aux anciens de l'église d'Éphèse, car il est sur le point de partir, et il dit, « Vous ne me verrez plus dans ce monde. » Il laisse un message d'amour et d'instruction pour ces hommes. Il dit dans les versets 20 à 21, au sujet de son ministère à Éphèse, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous ait été utile. J'ai souvent souligné cette phrase, je n'ai rien caché. Elle implique qu'il pourrait y avoir l'intention de ne pas prêcher toute la vérité parce que cela pourrait vous coûter votre position sociale. Si vous avez un ministère dans une certaine dénomination, cela pourrait vous coûter votre position dans cette dénomination. Si vous êtes une figure très populaire, cela pourrait vous coûter votre popularité. Ainsi, Paul dit, « Je dépasse cela et je décide que rien ne va m'influencer pour masquer quoi que ce soit de ce message. Je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. » J'aime ça, son message ne changeait pas selon qu'il s'agissait d'une grande réunion ou d'une réunion de maison. C'était le même message. Qu'est-ce que c'était ? Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui vient en premier ? La foi ou la repentance ? La repentance envers Dieu. Dieu, je suis désolé, j'ai haché un pécheur, j'ai conduit ma propre vie seul. Puis vient la foi en Jésus. Jésus, je crois que tu as pris ma place. Tu es mort pour moi sur la croix. Tu as pris mes péchés. Mais vous ne pouvez pas avoir une véritable foi en Jésus sans avoir au préalable une véritable repentance envers Dieu. La Bible déclare que tous les hommes doivent se repentir. Vous pourriez demander, pourquoi tous les hommes en tout lieu ? Laissez-moi vous donner une réponse tirée du prophète Ésaïe. Ésaïe 53, verset 6. Il dit, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. » Vous voyez, voilà notre problème. Nous n'avons pas nécessairement commis de meurtre ou d'idolâtrie, volé quoi que ce soit ou même jamais menti. Mais nous avons tous fait une chose, suivre chacun sa propre voie. Notre voie n'est pas la voie de Dieu. C'est une chose que nous avons tous en commun, indifféremment de nos dominations ou races. Quelle que soit la couleur de notre peau, nous avons tous suivi notre propre voie. Puis il dit, « L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Iniquité est un mot très fort. Qu'est-ce que suivre sa propre voie ? C'est l'iniquité, la rébellion. C'est se placer soi-même avant Dieu. Et c'est pour cela que Dieu demande à tous les hommes, en tout lieu, de se repentir. Parce que nous avons tous suivi chacun sa propre voie. Nous avons tous fait nos affaires. Nous avons cherché notre propre satisfaction en rejetant Dieu hors de tout cela. Dieu dit, « Je t'accueillerai, je te pardonnerai à cause de ce que Jésus a fait si tu te repens. » La repentance, c'est la ligne à franchir. À présent, je tiens à dire que la repentance commence avec Dieu. Tout ce qui est bon commence avec Dieu. Nous sommes toujours dépendants de la grâce de Dieu. En étant séparés de la grâce de Dieu, séparés des mouvements de son esprit, nous ne pouvons nous repentir. Cela nous est présenté avec une grande clarté dans le psaume 80. La même phrase revient trois fois dans ce psaume. Dans la version que je suis en train de lire, il est écrit au verset 3, Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Mais là où la traduction dit relève-nous, l'hébreu dit fais-nous retourner. En d'autres termes, fais-nous nous repentir. Cela revient trois fois dans le verset 3. Ô Dieu, fais-nous retourner, et nous serons sauvés. Verset 7. Fais-nous retourner, et nous serons sauvés. Verset 19. Éternel Dieu des armées, fais-nous retourner et nous serons sauvés. Comprenez-vous ? Vous ne pouvez vous repentir si Dieu ne vous fait retourner. Le retournement commence avec Dieu. Voilà pourquoi, dans nos vies, le moment où Dieu nous fait nous retourner est si crucial. Parce que si nous lui tournons le dos et nous éloignons, nous ne pouvons pas nous repentir par nous-mêmes. Nous dépendons de Dieu pour que la repentance commence. Puis, dans le livre des Lamentations, chapitre 5 et verset 21, les lamentations sont les pleurs de Jérémie sur la destruction de Jérusalem à cause de sa perpétuelle rébellion contre Dieu. Et c'est dit, dans Lamentations, chapitre 5, verset 21, dans cette traduction, il est dit « Faites-nous retourner ». C'est le même mot utilisé dans le psaume 80. « Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. » Ou « Retourner ». Fais-nous retourner et nous nous tournerons. C'est une pensée très, très solennelle. Vous ne pouvez vous retourner si Dieu ne vous retourne pas d'abord. Voilà pourquoi c'est un moment aussi délicat dans chaque vie. Je connais un jeune homme qui fut mon compagnon à l'armée. Quand je fus sauvé, il en fut le seul témoin. Il vit le changement dans ma vie. Et plus tard, dans la même unité, j'ai commencé une classe d'études bibliques. J'ai pensé, je dois faire quelque chose. Je n'avais aucune idée de la manière de conduire une classe d'études bibliques. Je ne savais pas par où commencer. J'ai pensé, comment se prend le Nouveau Testament? Par où commencer au juste? Chapitre 1. Donc j'ai commencé par la généalogie de Jésus. J'ai continué, j'avais environ 4 ou 5 de mes compagnons soldats présents. Cela se passait dans le désert nord-africain. Alors cet ami, qui était vraiment un très bon ami, va me voir et me dit, « Je suis désolé, mon vieux, mais je ne reviendrai plus à tes études bibliques. » J'ai répondu, « Pourquoi ?» Il m'a dit, « Parce que si je reviens, je vais me convertir. » Des années plus tard, je l'ai rencontré dans des circonstances complètement différentes. C'était la personne la plus misérable que j'ai connue. Il me supplia de l'aider. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai de l'expérience sur la manière d'amener les gens au Seigneur, mais je n'ai pas pu l'aider. J'ai aidé sa femme, elle fut sauvée. Je ne sais pas comment il a fini, mais oh, quel avertissement pour moi. Vous pensez que vous pouvez revenir quand vous voulez revenir? Vous pouvez dire, Seigneur, je suis occupé maintenant, mais je reviendrai plus tard. Vous ne pouvez faire cela. Quand il a voulu revenir, il n'a pas pu le faire. Je ne dis pas qu'il a laissé passer le moment de la repentance. Je ne sais pas quelle fut sa fin, mais quelle leçon pour moi. Quand à l'époque, Dieu lui a parlé de se repentir, cela ne lui convenait pas. Quand il voulait être sauvé, Dieu ne lui parla plus. Qui sait comment il a fini? La Bible déclare qu'il n'existe qu'une seule alternative à la repentance. Et elle est présentée dans Luc 13. Les premiers versets sur le ministère de Jésus. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il semblerait que Pilate les ait exécutés pendant qu'ils réalisaient un sacrifice. Vous pourriez penser que cela se racontait en leur faveur. Mais Jésus répondit. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuée, croyez-vous qu'elle fût plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il n'y a qu'une alternative, se repentir ou périr. Ce sont les paroles de Jésus lui-même. Bien, nous avons dit que la repentance ouvre le chemin à la foi. Commençons par regarder d'un peu plus près la nature de la foi, et nous poursuivrons pour la session suivante. Dans Romains 10, verset 17, que j'ai cité tout à l'heure, il est écrit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » C'est un principe très important. La foi, telle qu'elle est présentée dans la Bible, signifie toujours la foi dans la parole de Dieu. Elle ne peut provenir que d'une seule source. La parole de Dieu. Il n'y a qu'un point central, la parole de Dieu. Voyez-vous, nous pouvons dire en français courant, j'ai une grande foi en mon médecin, ou bien j'ai une grande foi dans tel parti politique, ou encore j'ai foi dans une certaine sorte de médecine ou de régime. C'est légitime. Il n'y a rien de mal à utiliser ces termes, mais ce n'est pas l'usage scriptural de la foi. La foi dans la Bible est toujours basée sur la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas basé sur la parole de Dieu n'est pas la foi biblique. Dans Hébreux 11, nous trouvons une définition de la foi. Je crois que c'est le seul mot que la Bible définit, en fait. Aucun autre mot défini dans la Bible ne me vient à l'esprit. En Hébreux, chapitre 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ainsi, il y a une relation entre la foi et l'espérance. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens ont l'espoir quand ils pensent avoir la foi. La foi est ici et maintenant. L'espoir est pour le futur. La foi est une substance, quelque chose de si réel qu'elle est une substance. Elle est dans nos cœurs. Sur la base de la foi, nous pouvons avoir une espérance légitime pour l'avenir. Mais toute espérance qui n'est pas basée sur une foi légitime est un simple souhait. Mais gardez à l'esprit, la foi est une substance dans nos cœurs. Elle est ici et maintenant, pour de bon. Romains, chapitre 10, verset 10, dit, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Remarquez bien que la foi biblique n'est pas dans la pensée, mais dans le cœur. Puis Paul poursuit ainsi, « Car c'est en croyant du cœur qu'un homme croit au salut. » Dans le Nouveau Testament, croire est un mot d'action. Ce n'est pas une chose statique. Ce n'est pas adopter une position intellectuelle. C'est quelque chose dans votre cœur qui vous amène à quelque chose de nouveau. Croire est un verbe d'action. Par la foi, nous croyons au salut. Vous pouvez avoir une foi intellectuelle et n'être jamais transformé. Vous pouvez embrasser intellectuellement toutes les doctrines de la Bible et rester totalement le même. Mais quand vous avez la foi dans votre cœur, elle vous mène au salut. La foi est pour le présent, l'espérance pour le futur. La foi est dans le cœur, l'espoir dans la pensée. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8, Paul parle des deux. Il utilise une image très intéressante. Paul dit, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8, « Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Vous remarquerez ici deux pièces de l'armure. La foi est une cuirasse. Que protège la cuirasse? Le cœur, bien sûr. Mais l'espérance est un casque. Que protège le casque? La tête, bien sûr. La foi est dans le cœur, l'espérance dans la pensée. L'espérance est très importante parce que tout véritable chrétien devrait être un optimiste. Si vous êtes un pessimiste, en fait, c'est un reniement de votre foi. Je définis l'espérance comme l'attente confiante de bonnes choses basée sur la parole de Dieu. Et chacun de nous, qui est un authentique croyant, attend avec confiance de bonnes choses. Parce que quoi qu'il puisse arriver dans cette vie, nous serons éternellement avec Jésus. Si c'est votre espérance, vous ne pouvez être déprimé, vous ne pouvez être abattu, vous ne pouvez jamais abandonner, parce que vous avez une espérance basée sur la foi. Retournons alors à Hébreux 11 pour voir de nouvelles affirmations sur la foi. Le merveilleux chapitre 11 d'Hébreux, le grand chapitre de la foi. Dans Hébreux 11, verset 3, nous lisons « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Il est très important de comprendre que la foi vous relie à l'invisible. La foi n'est pas basée sur ce que nous voyons. La foi nous transporte au-delà du royaume des sens dans le royaume de l'invisible. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, Paul dit, « Nous marchons par la foi, non par la vue. » Remarquez, il y a une alternative. Quand vous voyez, vous n'avez pas besoin de croire. Vous ne pouvez croire que ce que vous ne voyez pas. Paul dit que nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas en vertu de ce que nous voyons. Nous marchons en vertu de ce que nous croyons. Et en sortant de la tombe de Lazare, Jésus dit à Marie, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Alors, qu'est-ce qui vient en premier ? La foi ou la vue ? La foi, bien sûr. Ainsi, beaucoup de gens disent, « Je ne crois que ce que je vois. » Non, ce n'est pas vrai, parce que quand vous voyez, vous n'avez pas besoin de croire. Vous avez besoin de croire quand vous ne voyez pas. Nous marchons par la foi, non par la vue. J'ai croisé tant de gens qui disaient, « Oh, si seulement je pouvais voir, je croirais. » Ce n'est pas vrai. Vous n'auriez pas besoin de croire. Vous avez besoin de croire quand vous ne voyez pas. Nous marchons par la foi, non par la vue. Jésus dit à ses disciples, « Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. » Voilà la foi. C'est persévérer avec Jésus. C'est un engagement personnel envers une personne. La foi nous relie à Jésus en tant que notre souverain sacrificateur. Quand nous le confessons, Hébreux, chapitre 3, verset 1, dit, « Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ. Souvenez-vous de cela, c'est très, très important. Jésus est le souverain sacrificateur de votre confession. Si vous le dites, il est votre souverain sacrificateur. Si vous gardez le silence, il ne peut pas être votre souverain sacrificateur. Voilà pourquoi il est important de confesser votre foi. Puis Hébreux 4:4 dit, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous confessons, nous sommes testés, mais nous demeurons fermes. Tant que nous demeurons fermes, Jésus est notre souverain sacrificateur. » Mais Hébreux 10 nous amène encore plus loin. Hébreux 10:21 déclare, « Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Remarquez bien, nous avons progressé de la foi vers l'espérance. Nous avons une espérance basée sur notre foi. Nous confessons notre foi, et maintenant, nous confessons notre espérance. C'est dit sans hésitation. Pourquoi pensez-vous que cela ait été écrit? Pourquoi cela est-il dit sans hésitation? Pourquoi est-il dit de tenir ferme la profession de notre foi? La raison est qu'il y aura beaucoup de forces qui s'opposeront à nous, beaucoup de pressions qui s'exerceront contre nous, beaucoup de choses qui chercheront à nous décourager et à miner notre foi. C'est une bataille de détermination. C'est une bataille d'endurance. Pour finir, je dois vous dire, à contre-cœur, la foi sera éprouvée. Une foi non éprouvée est sans valeur aux yeux de Dieu. Jésus dit à l'église d'Éphèse, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » C'est la vraie foi qui a passé le test. Jadis, l'or qui n'était pas passé par le feu était considéré comme ne valant rien. Une foi qui n'a pas été éprouvée ne vaut rien aux yeux de Dieu. Laissez-moi vous citer Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Voulez-vous être parfait et accompli? Vous devez laisser l'endurance accomplir parfaitement son œuvre. Voilà l'épreuve que vous devez traverser. » Et Pierre dit quelque part, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Laissez-moi vous dire un dernier mot que vous souhaiteriez probablement que je ne dise pas. Il n'y a qu'un seul chemin pour apprendre l'endurance. Et vous savez ce que c'est? Endurer. Voilà. Que Dieu vous bénisse.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.